Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et je voulais aujourd'hui, je me suis posé la question de savoir où est-ce que je peux vous envoyer. Et je me suis dit, je leur ai parlé d'à peu près toute la messe et j'ai oublié quand même l'élément central, et par l'élément central, je voulais parler du credo. Je crois en Dieu, et je me suis dit que là, on passait quand même à côté de quelque chose d'assez intéressant. Alors, c'est vrai que le credo, c'est une place centrale. Alors, pourquoi? Parce que je me souviens d'avoir lu ça chez un jésuite parisien qui était professeur au Centre Sèvres, et qui disait que c'était le centre de la foi, parce que plus que la liturgie, finalement, c'était ce qui nous liait tous ensemble, les chrétiens, et effectivement, il n'a pas tout à fait tort, parce que quand on voit la profession de foi qui est faite là-dedans, effectivement, on se dit que c'est au cœur de la foi de tout chrétien, et bien entendu, comme c'est un texte d'importance, vous doutez bien que les musiciens s'en sont donnés à cœur joie. Alors, je vais d'abord vous redire le texte, alors c'est un petit peu long, on s'accroche, mais c'est important de l'avoir bien en tête, parce que musicalement, bien entendu, cela implique beaucoup de choses. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Voilà, donc vous avez bien compris, c'est un gros morceau, non seulement parce que il y a beaucoup de choses théologiques qui sont extrêmement importantes, par exemple la Trinité qu'on remet un petit peu au centre du jeu, il y a également le fait que l'on parle de l'appartenance à la Sainte Église catholique, et bien entendu, il y a tout le fondement qui est autour de cette croyance dans la vie de Jésus qui est fils du Père, avec bien entendu sa mort et sa résurrection. Donc vous doutez bien qu'un texte avec de telles évocations était forcément au centre de toutes les préoccupations de certains musiciens. Là, ce que je viens de vous dire, c'est le texte de Nicée-Constantinople. Alors, ça a été le fruit de la réflexion autour de deux conciles, celui de Nicée puis celui de Constantinople. Par la suite, un autre credo que nous utilisons également a été rédigé. Il est dit que c'est le symbole des apôtres. Je ne le déroule pas ici parce que celui qui est utilisé, notamment dans la musique, c'est le plus grand, effectivement, parce qu'il permet d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, quand on évoque la lumière, etc., bien entendu, toutes ces vocations musicalement font que, eh bien, il y a des choses à apporter. Alors, sans transition, je vous propose d'aller chez un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique classique, chez Mozart, notamment dans ce que je trouve être un de ses chefs-d'œuvre, la messe en Do mineur, un véritable chef-d'œuvre. Alors, la messe est tellement réussie d'ailleurs qu'il s'en est servi pour alimenter certaines de ses autres compositions, parce que comme c'était un compositeur qui était très demandé, bah, parfois il n'avait pas le temps tout simplement de composer de nouvelles choses. Donc en fait, il est tiré de certaines de ses compositions qu'il jugeait les plus réussies. Et bien entendu, beaucoup de ce qu'il a composé pour la messe en ut mineur a été réutilisé par la suite. Donc là, bien entendu, on ne va pas l'écouter en entière. Simplement, le credo qui est extraordinaire et qui commence avec un petit clin d'œil, vous allez entendre, avec le credo grégorien.
Credo,
Ce credo dans la grande tradition classique, avec cette incroyable mise en scène, mise en lumière du texte par Mozart lui-même, vous rendez bien compte que là, on est dans quelque chose qui est dans, un petit peu dans l'exubérance qui caractérise si bien Mozart, qui rend service au texte et à la fois qui donne quelque chose de tout à fait différent. Alors aujourd'hui, bien entendu, difficile d'imaginer cela dans une église, mais vous voyez bien cette énergie, comme si finalement cette profession de foi était avec tout le cœur et qu'elle se disait sans l'ombre d'un seul doute. C'est ce que je trouve absolument extraordinaire avec cette partition-là. Maintenant, alors, pour une fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je vous fais les émissions, je pars d'abord dans les temps les plus anciens, puis je remonte avec la chronologie. Je n'ai pas voulu faire ça. On va aller un petit peu plus en arrière avec Jean-Sébastien Bach et un extrait du credo de la messe en si. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix? Tout simplement parce que je voulais vous montrer la différence, d'abord avec quelque chose de plus exubérant, comme je viens de vous le dire, et maintenant quelque chose de beaucoup plus intime. Alors, la messe en si, énorme architecture, il serait bien entendu vain d'en parler ici en l'espace d'une minute. Donc on va s'attarder sur un tout petit morceau du credo, parce qu'il a distingué son credo en plusieurs morceaux. Et il ne faut pas oublier que l'architecture a quelque chose de central hein, chez Bach. C'est toute une catéchèse qui est faite dans cette messe en si, dans la tradition allemande, etc., où il y avait effectivement beaucoup cette envie de faire les choses bien, bien que cette messe soit catholique, puisque tout y est dit et chanté en latin. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête qui est extrêmement important, et c'est extrêmement rare chez Bach. Donc là, l'extrait que je vais vous passer, c'est le « Et in unum dominum ». Donc vous avez cette espèce d'unité qui est pourtant chantée, c'est paradoxal, par deux solistes, et vous allez entendre les voix ont une telle imbrication qu'on dirait effectivement qu'il y a cette unité qui se fait entre le Fils et le Père. C'est absolument prodigieux et c'est bien entendu signé Jean-Sébastien Bach.
Yeah.
il fallait bien le génie de Jean-Sébastien Bach pour que de ces deux voix naisse l'unité du père. C'est ce que je trouve absolument extraordinaire dans ce mouvement, c'est que effectivement on aurait pu se dire bah il aurait pu avoir un unisson s'il voulait que seulement avoir une représentation de cette unité, ou alors que tout le monde chante la même chose, ou même qu'il n'y ait qu'un seul chanteur. Non, Bach a fait le choix un petit peu audacieux, peut-être iconoclaste, d'avoir ces deux personnes, mais qui sont tellement complémentaires dans leur façon de chanter. En plus là les chorés sont extraordinaires, je sais pas si vous entendez, mais le vibrato se fait exactement à la même vitesse et on a cette impression d'unité totale qui était bien entendu l'artifice que souhaitait mettre en place Jean-Sébastien Bach, ici parfaitement exécuté, parfaitement réussi. Et alors, sans parler de la beauté absolue de cette petite pépite que je trouve extraordinaire. Il ne faut pas également mettre sous le tapis le côté dual, le fait qu'il y ait deux voix, parce que chez Bach, c'est très important, notamment dans la messe en si, qui construit comme un immense chiasme dont l'épicentre est la crucifixion. Donc, on voit bien que le côté deux est très important chez Bach, qu'il le souligne lui-même et que toutes les personnes qui ont analysé cette messe ainsi le savent. Mais c'est vrai que le choix reste audacieux pour ce court extrait, mais qu'il marche bien, hein, force est de le constater, grâce au talent incroyable de Jean-Sébastien Bach. Voilà donc pour ce tour un petit peu chez les anciens, si j'ose dire. Il y en a bien entendu beaucoup, beaucoup d'autres. Je vous invite à les découvrir, notamment les credos grégoriens. Il n'y a pas que le credo 3 que vous connaissez peut-être, qui mérite d'être redécouvert ou chanté, parce qu'à mon sens, c'est dommage que le credo ne soit plus chanté, alors peut-être pas systématiquement, mais je trouve que ça a du sens d'avoir cette unité par le chant, exactement comme quand on chante de temps en temps un autre père. Je trouve que c'est une belle preuve de communion, et à mon sens, peut-être que quelque chose à retrouver dans nos églises. Voilà, mais ça, c'est mes réflexions toutes personnelles. Maintenant, on va aller dans un temps beaucoup plus présent, au XXe siècle, avec un compositeur dont je vous avais parlé la semaine dernière. Il s'agit de Flor Peters. Alors, c'est un peu de la triche, me direz-vous, parce que je recycle. Mais bon, en même temps, je reparle souvent de Mozart ou de Jean-Sébastien Bach. Cependant, je vais parler d'une autre messe que la Missa Festiva que je vous avais présentée la semaine dernière. Il s'agit ici d'une Missa in Honorem Sancti Josephi, donc une messe en l'honneur de Saint-Joseph, qui est assez rarement honorée, il faut bien le dire. Et rien que pour ça, il convient de s'y attarder. Alors cette messe est d'autant plus intéressante que le compositeur fait le choix, donc je vous rappelle le contexte, hein, dans le motu proprio de Pie X, il y avait cette réflexion intense autour de la musique liturgique et notamment de la prééminence du grégorien. Ici c'est d'autant plus fort que le compositeur fait référence, de nombreuses références au mélisme grégorien, c'est-à-dire à la mélodie grégorienne, et il le rend extrêmement moderne, ne serait-ce que par l'harmonie des chœurs, mais également, vous allez l'entendre, avec ce que joue l'orgue. Ainsi se termine ce credo de la Missa in Honorem Sancti Josephi de Flor Peters, avec panache et triomphe. Là aussi, on retrouve un petit peu l'idée qu'il y avait eu en tout début d'émission avec Mozart. Je ne sais pas si vous retrouvez un petit peu ça, alors dans un style totalement différent, bien entendu, mais il y a ce credo très assumé qui aujourd'hui, je pense, peut pousser à la réflexion, tant c'est chanté avec ferveur et dit avec brillance, et ce amen éclatant, comme si on mettait un point d'accord final et non discutable entre toutes les personnes qui font cette profession de foi. Je trouve que c'est là encore une très très belle réussite. Donc je ne sais pas si vous avez prêté attention à la façon dont la musique a été composée pour cette messe-là. Je vous ai dit qu'il y avait des références au chant grégorien. Bon, alors bien entendu, on l'a immédiatement avec cette petite mélodie initiale, je crois en un seul Dieu, chantée en latin bien entendu, qui fait référence à toutes ces mélodies. Je trouve que c'est extrêmement important d'avoir ça dans des compositions contemporaines. Alors parfois c'est clairement assumé et copié du grégorien, parfois ce sont des plus petites références. Néanmoins, cela a une utilité certaine, ça permet de rappeler tout simplement les origines de la foi, et je trouve que ça a d'autant plus de sens dans un credo qui se veut être le fruit de toute la croyance depuis l'an zéro jusqu'à nos jours, où les apôtres, les disciples ont professé leur foi. Il y a cette espèce de côté historique, historicisant, qui est ici retranscrit par la musique, c'est-à-dire qu'on a aussi respecté la tradition musicale qui a plus de 1000 ans, hein, il faut quand même le savoir, quand les papes ont décrété que ça serait dit pendant la messe, c'était autour de l'an 1000 d'ailleurs, eh bien c'est une longue et belle tradition qui, à mon sens, doit être largement perdurée et qu'on a par ses échos, ses biais, etc. Alors toute cette messe, Missa in Honorem Sancti Josephi, que je vous invite à découvrir, est construite de cette même manière. Comme je vous avais fait découvrir la Missa Festiva la semaine dernière, je ne voulais pas vous faire la même chose. Il a également écrit de très très belles choses, hein, donc surtout, je vous laisse consulter ce qu'a écrit ce compositeur, de très très belles choses, en ce début de XXe siècle, qui a été si prolifique, également d'autres très très belles œuvres. Voilà donc pour ce tour d'horizon assez rapide, vous me le concéderez, du credo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a également beaucoup de choses à voir à côté, donc encore une fois, renseignez-vous sur le grégorien, vous verrez que ça nourrit également tout le reste de la musique, et pas seulement pour le credo. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir pour évoquer de nouveaux sujets liturgiques. Je vous rappelle quand même, maintenant vous le savez, que le 27 janvier à 16h à la Basilique Saint-Cernin, votre serviteur aura le plaisir de diriger la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Cernin dans un programme autour de la Saint-Thomas d'Aquin. Il y aura également le chœur grégorien de la Schola et un jeune organiste très prometteur qui jouera certaines pièces, notamment du Messian et du Bach, donc un très beau concert, donc 27 janvier à 16h, c'est un concert gratuit, et ça se fait dans le cadre du jubilé de la Saint-Thomas d'Aquin, donc avec nos amis dominicains. Je vous invite bien entendu à les soutenir et à venir à ce concert qui sera un beau concert. D'ici là, portez-vous bien mesdames et messieurs, et je vous dis à bientôt sur Point d'Orgue.